Et merci beaucoup Simon qui a fait ce micro-trottoir de Radio Campus Rouen. Je passe le micro à AC de Radio Campus Montpellier et Samuel de Radio Campus Tours pour l'interview.
Merci. Et merci. Bonjour Patricia, merci d'être avec nous aujourd'hui en direct des Assises du journalisme à Tours avec le réseau Radio Campus France.
Bonjour Patricia, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce qu'on vient d'écouter ?
Mais il y avait plein de thèmes dans le thème. Alors la première réaction, c'est que pour moi, il n'y a pas de différence entre le fait divers et le true crime. C'est une autre manière de le dire anglaise, mais c'est la même chose. Et je pense que les étudiants qui parlaient ou les jeunes qui parlaient, en fait, ils confondent le fait divers traité dans le journal local et puis le true crime, comme ils disent, qu'ils vont voir en série sur Netflix ou ailleurs. Mais voilà, ce ne sont que des faits divers et ce sont tous des faits divers. Et après, tout dépend de la manière dont on les traite. Et moi, par exemple, quand je travaillais à Libération, j'essayais de les creuser. Alors évidemment, je les traitais en actu, donc en feuilletonnant très souvent, mais en faisant attention de parfois faire un point, faire une double page de récapitulatif de toute cette histoire, et en les creusant. C'est pas parce qu'on travaille dans un quotidien qu'on va pas creuser un fait divers. Mais maintenant que je suis plutôt auteur et co-réalisatrice, bien évidemment, je les creuse et je les approfondis encore plus, ce qui a l'air de plaire à certains des garçons du radio-trottoir. Et après, sur les victimes, ouais, il faut toujours penser aux gens qui sont derrière le fait divers. C'est une matière profondément humaine, et c'est d'ailleurs ce qui me passionne dans cette rubrique-là. Mais il faut faire attention tout le temps, même aux suspects, même aux parents du criminel, même, tu vois, il y a les victimes, bien évidemment, mais voilà, il faut avoir une espèce de tact. Et en revanche, d'en parler, et d'en parler beaucoup, c'est notre métier. Je veux dire, on est là pour informer. Et les faits divers sont une part importante de la société. Ce sont souvent des faits de société. Ceux qui parlent de Le Squarneck, c'est quand même le plus grand pédophile criminel en France. Le mec, je crois qu'il y a 199 jeunes victimes, des enfants. Il était médecin. Ça pose aussi le problème d'ailleurs de ce type-là avait été arrêté déjà pour détention d'images pédopornographiques. Et néanmoins, il avait été embauché dans une clinique à Jonzac, où il a pu continuer en fait ses exactions et à violer et agresser sexuellement des enfants, ce qui est dingue. Mais voilà, c'est un peu en vrac. Hein.
Mais c'est déjà très bien dit parce que ben, vous avez réagi tout comme les personnes à qui on avait posé les questions. Et il y avait aussi cette question du fait divers au fait politique. C'est là-dessus qu'ils ont terminé. Mais comme vous l'avez dit, ça reste aussi un fait de société, un fait divers. Quoi.
Mais parfois, sous Sarkozy, j'ai vraiment déploré qu'il y ait une récupération politique sans arrêt des gros faits divers, comme Laetitia d'ailleurs, qui a fait l'objet d'un livre formidable du sociologue Yvan Jablanka. Mais Laetitia, en fait, après la mort de Laetitia, Sarkozy, à chaque gros fait divers comme ça qui suscitait l'émotion dans la population, il mettait une nouvelle loi. Il voulait créer une nouvelle loi. Et sans arrêt, des lois plus dures. Et parfois, il y avait déjà l'arsenal juridique pour lutter contre ça. Et il rajoutait une loi. Enfin, ça, c'est pas bien. Mm-hmm. Je suis pas d'accord.
Bah, on va, de toute façon, c'est le sujet de notre émission juste après. On en reparlera avec d'autres invités. On va revenir un petit peu, du coup, sur ce fait divers en général. Et puis également sur la table ronde un petit peu que vous avez animée ce matin. Puisqu'effectivement, vous avez animé une table ronde intitulé les nouveaux formats autour du fait divers lors de cette 18e édition des Assises du journalisme. Et vous étiez accompagné par Vincent Vatiguem, journaliste au service police-justice de BFM TV, et Justine Reix, du coup journaliste indépendante et réalisatrice de vidéos, notamment sur YouTube, mais pas que.
Nous avons pu l'interroger sur l'évolution du traitement médiatique des faits divers en France. On écoute sa réponse.
Oui, évidemment. Je pense que ces dernières années, on a vu une accélération au niveau des productions de contenu, que ce soit sur les plateformes, sur YouTube, sur les médias traditionnels, de traitement, on va dire, de faits divers. Je pense qu'il y a quelques années, on était plutôt sur on a un procès, on va le couvrir, on va raconter un fait divers qui vient de se passer. Alors que maintenant, on va aussi faire des sujets beaucoup plus au long cours, où on va évidemment couvrir des procès qui durent plus longtemps, parce que c'est des procès d'envergure. Et puis, on a aussi des moments où on va reprendre un fait divers qui a marqué les Français ou marqué des gens à l'international, et on va le vraiment détricoter pour le raconter de manière un petit peu narrative, avec un vrai storytelling. Et ça, j'ai l'impression qu'on le voyait beaucoup moins avant.
Est-ce que vous avez la même réponse par rapport à ce qu'elle a dit ?
Ah ouais, franchement, elle a raison, Justine. C'est-à-dire qu'il y a une démultiplication de toutes les chaînes de la TNT, des plateformes, Netflix, HBO, etc. Et ça, du coup, les podcasts, un développement énorme aussi des podcasts. Et moi, en tant que fait diversière de profession, j'ai remarqué les demandes. Les demandes sont énormes. Et pas seulement en bouquin. Aussi, moi, on m'a demandé de co-réaliser la série de Netflix sur Grégory, et ce qui était génial, parce que oui, on déplie vraiment une histoire de A à Z. Ça permet vraiment de la développer sur... nous, on a fait 5 heures, alors qu'au départ, Netflix nous demandait 5 fois 40 minutes. Finalement, on a fait 5 fois 60 minutes, parce que ça tenait la route et qu'ils ont trouvé que tant que c'était fort... on pouvait y aller, quoi. Il y a pas de. C'est pas comme dans une télé avec une case, ouais, 90 minutes. Ou... Là, on a fait 5 heures à l'aise. Et c'est une autre façon de raconter l'histoire. Mais moi, ça me passionne, justement. Là, parce que ce soit dans un livre, un podcast ou une série documentaire, moi, ça me permet vraiment d'aller au fond des choses et de pouvoir faire sortir des témoignages ou des archives. Qui sont un peu inédites, qui sont un regard global sur une affaire que les gens ont l'impression de connaître. Genre l'affaire Grégory, tout le monde dit oh « ouais, bon, on sait, ouais, on connaît ». Tu vois, et finalement, non, ils ne connaissent pas tant que ça.
Donc pour vous, justement, cet avènement des réseaux sociaux, des nouveaux médiums d'information, et puis également aussi du mode de consommation, finalement, des informations par peut-être les nouvelles générations, est-ce que pour vous, du coup, c'est bénéfique finalement aux faits divers ou pas d'avoir cette quantité de plateformes et de médiums sur lesquels travailler, ou de pouvoir raconter cette histoire, mais différemment?
Je ne peux pas dire que ce soit archi-bénéfique, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Il faut faire vraiment le tri. Et donc, c'est à nous, journalistes ou spécialistes de ces faits divers, de choisir là où on va pouvoir bien le faire. Il y a même sur la TNT, il y a des tas d'émissions, là, enquête criminelle, tout ça, des trucs sur Énergie 12, des trucs, honnêtement, qui valent rien, qui jouent sur le crapoteux, qui jouent sur le gore, et qui, d'ailleurs, répondent à un certain attrait malsain de certaines personnes pour les faits divers, tu vois. Et ça joue là-dessus, et c'est caricatural. Par exemple, la victime, c'est toujours une noix blanche. Le criminel, c'est toujours le bourreau, le jeu. Enfin, c'est pas bien. Donc, il faut faire la part des choses dans tous ces médiums et dans tous ces médias, et choisir quand on peut, bah, les supports sérieux où on va pouvoir faire un travail sérieux et qui ne joue pas sur les bas instincts des gens.
D'accord.
Parce que autant on doit informer, mais autant on doit pas servir les voyeurs et tout. Il y a des détails dans des faits divers qu'on gomme de nous-mêmes. Qu'on ne va pas écrire ni montrer.
Mais vous en parliez justement lors de la conférence ce matin de cette accroche, puis même juste de l'éthique en tant que journaliste, de ne pas forcément aborder certaines choses et d'omettre certains détails pour ne pas justement glorifier un petit peu aussi le crime et puis les tueurs, quoi.
Oui. Alors ça, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que sur les crimes eux-mêmes, notamment les crimes sexuels, il faut en même temps raconter suffisamment pour montrer l'horreur du mec qui a commis ça, et en même temps édulcorer certains détails qui sont trop atroces. Mais la deuxième chose, c'est dans notre façon de raconter, il faut trouver un angle pour que ce ne soit pas le tueur en série qui soit le héros. Et l'exemple que j'ai donné ce matin, sur mon livre Guy Georges La Traque. J'en ai tiré un unitaire de 92 minutes pour Netflix qui s'appelle Les femmes et l'assassin. Et en fait, c'est l'affaire Guy Georges, mais vue à travers le regard de quatre femmes. Et après, ils m'ont rajouté dans la journaliste, mais il y a quatre femmes qui sont la commissaire de police qui a traqué Guy Georges, une mère de victime qui l'a aussi recherché à sa façon et essayé de le comprendre par la suite, l'avocate de la défense de Guy Georges et une avocate de victime au procès qui l'a fait craquer. Et de voir et de raconter cette histoire à travers les témoignages de ces femmes-là, c'est une manière... Voilà, c'est elles les héroïnes, ce n'est pas Guy Georges le héros, c'est complètement différent, mais ça c'est important, il faut à chaque fois trouver un angle pour que ce soit pas terre à terre, que ça donne pas la part belle au tueur, même si on va raconter son enfance, son parcours, ça n'empêche pas, mais il faut quand même essayer d'avoir un certain regard.
Vous disiez que c'était une chance de passer de journaliste à journaliste multi-support. Qu'est-ce qui vous anime dans ces nouveaux formats ?
Moi, je trouve, à partir du moment où je tiens une bonne histoire, des bons témoins et des enquêteurs, etc., de la décliner sur plusieurs modes de narration, moi, je trouve ça génial. Et c'est vrai qu'on n'écrit pas une série Netflix, comme j'ai écrit le livre sur Grégory, c'est pas pareil. Le livre est à la fois plus complet, et en même temps, je veux dire, la série, elle montre, enfin, je veux dire, le pouvoir de l'image est incroyable, et de pouvoir jongler entre les images, les témoignages. Et ce que je disais ce matin, c'est qu'on nous demande, pour une série Netflix, d'écrire déjà les séquenciers avant de commencer à tourner. Ça veut dire d'avoir déjà interviewé, pré-interviewé les gens, sans caméra, et ensuite d'écrire les séquenciers, une colonne son, une colonne image, qu'est-ce que tu mets sur ton premier épisode, deuxième, troisième, tout le découpage. Et il faut que ça, ce soit hyper fin et validé par Netflix avant de commencer à tourner. Et même si les gens, si tu veux, après une fois qu'ils vont être devant la caméra, ils ne vont pas dire exactement la même manière ce qu'ils m'avaient dit comme ça quand je prenais des notes. Il n'empêche que moi, ça me fait un canevas et que voilà, le diffuseur, il valide ou il ne valide pas sur la base de ça.
Et moi, je voudrais revenir un petit peu sur justement ce que vous disiez avant, parce qu'il y a un peu une sorte de fascination pour les faits divers de manière générale, et on l'a bien entendu lors du micro-trottoir. Ouais. Les gens sont toujours fascinés par les crimes un peu et ce genre de drame. Est-ce que, selon vous, la retranscription de ces événements au travers des nouveaux formats sont un peu l'avenir du fait divers en lui-même par rapport à ce qu'il était avant, juste en presse écrite ou en PQR ?
Ben oui, parce que il y a un attrait, je sais pas si c'est une fascination, mais il y a un attrait énorme des gens et de tous âges. Donc si tu veux, le fait d'avoir des supports qui soient plus accessibles aux jeunes, tu vois, moi mes enfants, ils ont pas lu mon bouquin sur Grégory, ils sont contre-foot. Par contre la série, ils l'ont vu 4 fois. Tu vois, c'est ça la différence. Donc si on veut informer et toucher plein de publics différents, on se met à plein de supports. Par contre, moi, je ne me mettrai pas à tweeter des, tu vois, le live tweet de procès, c'est pas mon truc. Mais voilà, moi, je fais autre chose.
Et dernière petite question, vous êtes actuellement en tournée pour la promotion de votre livre rubrique Faits divers. Quel est l'intérêt économique dans cette démarche de relancer le fait divers au grand public ?
L'intérêt économique ? Non, moi, ce que je voulais faire, c'était... si tu veux, pour des livres ou des séries ou un podcast, je vais choisir une affaire que je vais creuser qui mérite un livre. Mais il y a plein d'autres histoires que j'ai traitées, tu vois, qui me plaisent moi et qui, je pense, peuvent montrer la diversité des faits divers à mon public. Et donc, j'en ai choisi 69, mais dans des styles différents. Tu vois, il y a 14 thématiques, en fait. Donc, tu as les crimes au féminin, tu as les tueurs en série, tu as les grandes évasions, les bandits de grand chemin, les escrocs, les espions, la morgue, les djihadistes. Tu vois, c'est très, très varié, en fait. Et voilà, en fait, moi, les premiers lecteurs, tu vois, qui le lisent, c'était un peu comme... j'avais fait un livre sur le 36 Quai des Orfèvres où ça se lit un peu comme des nouvelles. Et c'était 25 histoires différentes. Bah là, tu en as 69 et les gens, ils piochent là où ils veulent. Voilà. C'est un voyage dans le crime, tu vois, dans le monde du crime, tel que je l'ai connu et que je l'ai vécu, tu vois. Ni tout noir, ni tout rose.
Eh ben, merci beaucoup Patricia.
Merci à vous.
Tourancho, pour ton éclairage sur ce que les faits divers fascinent-ils encore. On va se faire